Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous sommes le 12 décembre 1622. À Lyon, dans la chapelle de l'archevêché, un homme désormais habillé de rouge dépose au pied d'une reine son chapeau de cardinal en disant « Madame, cette pourpre dont je suis redevable à la bienveillance de votre majesté me fera toujours souvenir du vœu solennel que j'ai fait de répandre mon sang pour votre service. » Moins d'un an et demi plus tard, le 28 avril 1624 très exactement, notre cardinal apprend de la bouche de Louis XIII, le roi de France, lors d'un entretien secret à Compiègne, sur la terrasse du château, alors qu'il fait nuit, qu'il entrera, lui, cardinal de Richelieu, au conseil du roi, ceci dès le lendemain. C'était là la dernière marche à franchir pour atteindre le sommet de l'État. Mais ma foi, comme rien dans ce bas monde n'est acquis, c'était aussi le commencement d'une vie persévérante, d'un pouvoir à conserver, d'un apprentissage, disons-le, de la survie politique. Richelieu, souvent jugé, trop souvent jugé, de manière anachronique, bénéficie d'un regard nouveau sur sa vie, le regard d'une historienne, Françoise Hildesheimer, que je reçois, que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Françoise Hildesheimer, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez publié en 2004, chez Flammarion, une biographie de Richelieu, un travail qui a reçu un des grands prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le prix Madeleine Lorrain-Portemer. Vous êtes chartiste, conservateur en chef aux Archives nationales et professeur associé à l'Université Paris 1. Avant cette biographie, l'œuvre du cardinal Rouge ne vous était pas inconnue, puisque vous avez publié et commenté son testament politique ainsi que ses écrits théologiques. Ses écrits théologiques, précisément, feront l'objet de ma première question. Vous dites dans votre introduction que le plus volumineux d'entre eux, il s'agit d'un traité sur la conversion et, je vous cite, d'un ennui profond. Pourtant, ce serait une erreur, dites-vous, que de les mettre de côté. Et vous êtes, c'est une des particularités de votre livre, vous êtes revenu aux écrits de Richelieu.
Alors, d'un ennui profond, certes, c'est peut-être pas très catholique, si je puis dire, pour vendre cet ouvrage dont je signale qu'il va être réédité dans les jours qui viennent, qui va sortir aux éditions Champion. Et c'est un traité qui fera plus de 1000 pages avec les notes et qui, effectivement, est quand même pas très rigolo. Il faut s'accrocher pour le lire. Mais c'est quelque chose de quand même passionnant pour qui va jusqu'au bout, parce que je pense que c'est là qu'on est au plus près des modes de pensée de quelqu'un qui est quand même un personnage historique assez fascinant.
C'est ce qui fait la particularité de votre livre, de revenir aux écrits de Richelieu,
alors,
que l'historiographie
que
avait
oui.
tendance à négliger.
Alors, toute période secrète sont Richelieu, mais on a surtout, il faut l'avouer, voulu y voir un politique pur et dur, même, disons-le, même si le mot est très largement anachronique, le laïcisateur de la politique. Alors c'était quand même un assez joli scandale que ce cardinal de la Sainte Église romaine ait expulsé Dieu du monde de la politique. Alors, quand on revient à ces textes, on s'aperçoit que d'abord, ça a été un auteur particulièrement prolifique. Enfin, un auteur au sens où il faisait travailler un cabinet. Il faut pas le voir la plume à la main. Mais enfin, on connaît son testament politique, mais il faut également savoir, et c'est ça qui me paraît quand même très intéressant, que sa vie durant, il n'a jamais cessé de faire œuvre de théologien. Et que, par exemple, dans des moments dramatiques de l'histoire politique de la France, au moment où la place de Corbie tombe aux mains des Espagnols, en 1636, la route de Paris est ouverte, c'est la panique, y compris dans l'esprit du cardinal, et c'est le roi qui va remonter la pente et mobiliser les forces pour se porter au-devant des ennemis. Mais que fait malgré tout Richelieu à ce moment-là? Eh bien, il met en chantier un traité de la perfection du chrétien. C'est quand même assez étonnant de voir ça. Et je pense que le personnage mérite d'être pleinement rééquilibré. Il était cardinal trait d'union ministre, mais peut-être cardinal d'abord.
Alors, un des grands avantages de votre biographie, c'est que vous présentez plusieurs annexes qui sont très riches, très importantes. Une annexe qui s'intitule « Écrire l'histoire », une autre qui s'intitule « Richelieu et les archives et Richelieu ». Il y avait chez le cardinal la préoccupation de conserver et même de gérer les
écrits. Alors
là,
une préoccupation assez étonnante. Bon, il n'est pas le seul. On peut penser à Sully, avec ses économies royales, avait éprouvé le besoin de se justifier, d'écrire des mémoires qui finissent par être fantasmées. Richelieu, lui, c'est le cas d'un homme d'État en exercice qui va se préoccuper d'orienter l'histoire, quasiment. Et j'allais dire, les historiens lui ont bien emboîté le pas, puisque il nous a laissé une gamme absolument extraordinaire de documents. Alors, on va des propres archives, au sens propre, des documents produits au jour le jour, dans l'exercice de son gouvernement. Là-dessus, il a fait travailler un certain nombre de gens de son entourage pour composer ce que l'on appelle aujourd'hui les mémoires de Richelieu, qui ne sont pas des mémoires au sens contemporain, mais qui étaient d'extraire des documents, des matériaux pour une histoire du roi. Et vous allez me dire, il y avait des historiographes royaux. Ben, Richelieu estimait qu'on n'était jamais si bien servi que par soi-même, et non content de diriger autoritairement ses historiographes, il s'est dit qu'il allait mettre son cabinet au travail sur ce sujet. Et puis, on n'est jamais arrivé au bout de l'entreprise, il est mort, l'entreprise était inachevée, et il s'est également livré dans la première partie de son testament politique, qui s'intitule d'ailleurs « Succincte narration des grandes actions du roi », à une sorte de résumé. On peut dire que le testament politique, c'est la dernière tentative pour arriver à nous livrer une histoire du règne.
Ce qu'il y a d'étonnant, vous présentez une anecdote, il a davantage le souci vers la fin de sa vie de sa bibliothèque et la pérennité de sa bibliothèque que de ses propres papiers.
Oui, alors ça, on était quand même dans l'esprit de l'époque, les livres, les manuscrits qu'il avait fait acheter. Il avait une très très riche bibliothèque, donc ça c'est... Et puis on est à l'époque, en ce lieu, c'est important de le dire, où la bibliothèque s'ouvre pour la première fois au public. Avec les cardinaux ministres, on a, je dirais, un culte du manuscrit, du livre, qui est quelque chose d'intéressant. Ces papiers, c'était des papiers d'administration, mais quand même, on les a, ils ont subsisté jusqu'à nos jours. Donc, c'est assez amusant, on peut voir comment, à partir du document, s'est élaborée, je dirais, l'œuvre politique, puisqu'on va trouver dans le testament politique des traces aussi de ce travail. Et puis, on en trouvera même dans les pièces de théâtre auxquelles Richelieu ne dédaignait pas de prêter la main. Vous savez que Richelieu était un homme de lettres rentré, avec une vanité d'auteur assez amusante. Et il y a notamment une pièce « Europe » qui est démarrée de Saint-Sorlin, mais enfin, auquel on sait qu'il avait prêté la main. Et on a quasiment des phrases du testament politique qui vont passer sous forme d'alexandrin dans cette pièce. Donc on retrouve une espèce de construction multiple. Et c'est en ça d'ailleurs que Richelieu est fascinant. Et peut-être, si on peut risquer une hypothèse, c'est là qu'il l'a définitivement emporté sur le roi, puisque le roi nous a pas laissé cette somme de documentation. Le roi qui est quand même, si on avait une leçon à tirer de la biographie de Richelieu, c'est Louis XIII qui est le numéro un incontestablement. Mais Richelieu, j'allais dire, l'a doublé sur le fil de l'histoire parce que il nous a laissé cette documentation qui est assez exceptionnelle.
Alors nous y reviendrons bien évidemment sur les rapports entre Richelieu et Louis XIII. Nous sortons des sources et nous en venons au sujet même de notre entretien, la question religieuse. Alors votre livre comporte quatre grandes parties, l'Ascension, la Métamorphose, l'Empire de la Raison, l'Histoire inachevée. J'ai tenu vraiment à retenir cet aspect religieux, car comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, Richelieu fait l'objet d'un jugement un peu trop anachronique et on a tendance à voir davantage le politique, alors que c'était, comme nous allons le voir, également un théologien. Alors commençons par le commencement, si vous me permettez cette expression. Vous décrivez la cérémonie du baptême, vous montrez en passant qu'il n'est pas issu de la petite noblesse.
Exactement, comme encore ça, comme une ça, légende voilà. Tenace.
Voilà. Et ce qui m'a vraiment surpris et fasciné dans la description de la cérémonie du baptême, c'est en quelque sorte l'inscription des signes de sa vocation.
Tout à fait. C'est assez.
Alors, quels sont ces signes ?
C'est assez prémonitoire. On voit deux choses. Bon, le baptême du chrétien, et puis d'un autre côté une sorte de culte monarchique qui déjà se met en place. Le jeune Armand est non seulement baptisé enfant de Dieu, mais également voué au roi. Il y a toute une emblématique. Et ce qui est amusant, c'est qu'au fond, ça se met en place dès la naissance, enfin dès le baptême du cardinal. Et cette espèce d'emblématique, il va lui-même la développer dans toutes ses constructions. On aura toujours cette vocation à s'inscrire dans l'histoire.
Alors, il y a au-dessus des portes, puisque
oui,
visiblement
voilà,
c'était
toute une
grande
décoration.
Il y a une décoration, il y a des citations en latin, bien évidemment. Ut sintunum, pour qu'ils soient un. À leur tour, ils sauvegarderont la foi. Le Seigneur y pourvoira. Vraiment, il y a.
Tout un programme.
Ouais, tout un programme. Et c'est étonnant qu'un bébé, finalement, ait inscrit cette vocation. Mais autre cliché, là aussi, que vous condamnez, bien évidemment, c'est l'ascension, finalement, pour un homme issu de ce milieu, et la volonté d'évoluer est une chose très classique.
Tout à fait. Bon, on nous présente Richelieu comme l'archétype de l'ambitieux. Bon, bien sûr, on ne va pas dire que c'était un grand modeste, mais avoir vocation à servir le roi et à le servir de manière rapprochée était tout à fait dans la lignée de sa famille. Il faut se rappeler quand même que son père était le grand prévôt de France, c'est-à-dire le policier en chef de la cour et un des membres de l'entourage rapproché de Henri III et puis de Henri IV. Donc, le fils aîné du grand prévôt, qui était Henri, puisque notre Armand Jean n'est que le troisième, avait immédiatement, dès qu'il a été en âge, entamé une carrière à la cour. Et s'il n'était pas mort prématurément, il aurait sûrement fait une très belle carrière dans l'entourage d'Henri IV. Alors, le problème d'Armand Jean, c'est qu'il est le numéro 3. Et là, on va retrouver son passage à l'église.
Vous dites, je vous cite, « Le roi est le soleil dans la lumière et dans l'orbite duquel il leur faut absolument se maintenir. L'ambition est naturelle. »
Elle est naturelle, c'est la vocation à laquelle, d'ailleurs, toute sa tradition familiale le pousse.
Alors, venons-en précisément à cette vocation.
Oui.
En théorie, c'était le deuxième qui devait être d'église.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'aîné
le deuxième fils.
Fait carrière à la cour. Le deuxième, Alphonse, est normalement voué à l'église. Et dans les biens de la famille, qui n'était quand même pas très fortunée à ce moment-là, puisque le grand prévôt était mort de manière inopinée au moment où ses affaires étaient au plus bas. Mais ses affaires étaient temporairement en plus bas. Hein. Là encore, c'était du mode de vie normal de la noblesse d'avoir des dettes. Donc, il meurt et il y avait cet évêché de Luçon qui était resté au nombre des ressources qu'il fallait mobiliser justement pour faire la carrière de l'aîné Henri à la cour. Et donc, il était urgent qu'un des membres de la famille, qu'un des fils, prenne possession de cet évêché. Ça devait être normalement Henri. Manque de chance, si on peut dire. Voilà Henri qui était une personnalité assez étrange, hein, timide, malhabile, enfin bon, qui ne se sent pas de taille à endosser des ornements sacerdotaux et qui rentre à la Grande Chartreuse, sans crier gare. Alors quoi faire? Il faut absolument récupérer cet élément du patrimoine. Et voilà Armand Jean, qui était le troisième fils, qui était en train de s'initier à Paris à la vie d'un jeune gentilhomme voué à la carrière des armes, donc qui était jeune gentilhomme à la mode, dans les académies où on apprenait à monter à cheval, à danser, etc., qui opère un virage à 180 degrés. Il dit « pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de notre nom ». Eh bien voilà, il se met à faire des études de théologie avec la même énergie, avec aussi le même brio, parce qu'il va brûler les étapes.
Alors, avait-il une vocation réelle? C'est Françoise Hildesheimer, ce que nous verrons dans un instant. Un jour dans l'histoire reçoit Françoise Hildesheimer, auteure d'une biographie de Richelieu, parue aux éditions Flammarion dans la collection Grande Biographie, un ouvrage qui a reçu de la part de l'Académie des sciences morales et politiques un grand prix. Alors nous évoquons cette personnalité religieuse qu'est le cardinal de Richelieu, puisque nous avons tendance à oublier qu'il fut un religieux, et nous en étions à sa vocation. Est-ce que c'était un homme qui avait vraiment la vocation religieuse?
Alors, je crois que poser la question, et on ne peut pas éviter de se la poser, mais c'est quand même un petit peu anachronique. Pouvait-il
refuser?
Et puis, ne pas avoir la foi, d'une certaine manière. On était dans un environnement, il faut se replacer dans cet environnement religieux. Et puis, d'un autre côté, c'était une carrière tout à fait normale pour sa famille. Et servir Dieu, servir l'État, voilà qui ne lui posait aucun problème. Et comme il aurait été certainement un bon militaire au service du roi, le voilà qui se met au service de Dieu, ce qui d'ailleurs n'empêchait pas d'envisager une carrière au service du roi, et qui peut-être la facilitait. Parce que restons peut-être dans la logique de la promotion familiale, parce qu'il y avait une stratégie familiale derrière tout ça.
Alors, oui.
Qu'est-ce que un cadet pouvait espérer dans la carrière des armes? Bon, si avec la faveur du roi que son frère avait capté, si l'on peut dire, il aurait pu peut-être avoir un régiment, pas beaucoup plus. En rentrant dans l'église, voilà des possibilités de promotion peut-être plus brillantes et plus intéressantes.
Alors, je reviens sur la personnalité même de Richelieu à cette époque. Vous situez aussi, nous avons dit que l'ambition était naturelle, mais il a en quelque sorte une ambition redoublée dans la perte même de son père, puisque, dites-vous, sa famille sera dans la gêne financière.
Oui, alors là, il en a certainement souffert, et c'était certainement un enfant qui a été très proche de sa mère, qui est une personnalité intéressante, assez exceptionnelle. C'est elle qui a pris en main les affaires et qui a vraiment, avec acharnement, payé les dettes, poussé ses enfants. Et on sent qu'il y a de la part du Richelieu enfant une volonté d'aider à cette stratégie familiale. C'est pour ça qu'il va s'y soumettre sans aucun état d'âme. D'un autre côté, il y a également dans sa personnalité quelque chose qui est intéressant et qui est fondamental, à mon avis. Notre Armand Jean, notre marquis du Chillou, puisque c'est comme ça c'est le titre qu'il a à l'époque, c'est un merveilleux dialecticien. Dès le début de ses études, on sent qu'il a le goût des mots, le goût de la rhétorique, catholique. Et dans son premier cursus de gentilhomme mondain, le voilà qui est inscrit à une académie à la mode, qui est dirigée par un gentilhomme dauphinois, Antoine de Pluvinel. Et Pluvinel est l'auteur de méthodes pour instruire les jeunes. Et on voit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il recommande et qu'est-ce qu'il met en œuvre? C'est une méthode simple, facile, alors que ce soit pour conduire son cheval, se conduire soi-même, il faut le faire de manière simple, aisée et raisonnable. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer Richelieu à vie. Ça va le marquer du point de vue de sa manière de raisonner. Et autre chose qui va le marquer physiquement, c'est, j'allais dire, l'allure du militaire. Hein. On voit dans tous les portraits que même sous la robe rouge, c'est un militaire. Et ce goût ne l'abandonnera jamais. On sent que quand il est en opération militaire et qu'il prend lui-même le commandement, il est heureux de mettre ça en application. Mais il y a aussi ce goût de raisonner qui va trouver dans la carrière ecclésiastique, alors là, de merveilleux débouchés.
Alors, ce que j'ai découvert, je reste sur sa personnalité, et après nous passerons à sa charge d'évêque, si vous le voulez bien, c'est cette hypersensibilité, émotivité.
Et ça ne va jamais le quitter, c'est un hypersensible.
Cela vient de sa mère, c'est
alors,
ça?
Alors, ça vient sûrement, il y a sûrement dans la famille un certain déséquilibre même. Alors, il y a des légendes, on nous raconte le cardinal faisant le tour de son bureau en hennissant comme un cheval, ça, bon, rabattons-en un peu. On nous dit aussi qu'Alphonse, dont il fera aussi un cardinal ultérieurement, parce qu'il le sortira du cloître pour quand même servir à l'illustration de la famille, qu'Alphonse, dans ses habits sacerdotaux, se prenait pour Dieu le Père. Alors là, encore, anecdote malveillante, Alphonse qui était un personnage timide et naïf, se voyant dans ses beaux habits, aurait dit « Oh, ben je suis comme Dieu le Père ». Alors on en a dit « Voilà, il se prend pour Dieu le Père ». Mais il y a quand même une autre de ses sœurs, Nicole Duplessis, qu'il faudra finir par enfermer dans un château, et qui, elle, refusait de s'asseoir, alors dans la vie quotidienne, c'était peut-être un petit peu ennuyeux, refusait de s'asseoir pour ne pas briser son postérieur de verre. Alors là, il y avait un petit problème qui va se retrouver, j'allais dire, dans la descendance de Nicole Duplessis. Mais il y a dans toute cette famille, j'allais dire, un côté, on dirait, nerveux, exacerbé, et chez le cardinal, dépressif. Alors un côté qu'on retrouvera aussi chez Louis XIII. Hein. On aura aux commandes deux grands dépressifs.
Très souvent malades également.
Et deux grands malades. Alors est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que là... un tas de questions qu'on peut se poser, mais c'est toujours très difficile de faire des diagnostics a posteriori.
Alors passons, si vous le voulez bien, à sa charge épiscopale, puisqu'il sera évêque de Luçon. Nous sommes dans une période post-conciliaire.
Tout à fait.
Et c'est un homme du concile.
C'est un
du
excellent
concile de 30.
Évêque de la réforme catholique. C'est quelqu'un qui va mettre sur le terrain, en œuvre, alors l'un des premiers en France, parce que le Concile de Trente a mis du temps pour être reçu en France, donc il y a un décalage temporaire important, mais dans ces années 1608, puisque c'est en 1608 qu'il arrive à Luçon, on commence à mettre en application les décrets du Concile de Trente. Et de ce point de vue-là, Richelieu est un excellent évêque dans la ligne de ce que veut Rome et le roi. C'est un des premiers, par exemple, qui va se soucier d'un séminaire pour la formation des prêtres. Il va parcourir son diocèse, enfin du moins les premières années, parce qu'après il va être repris par les affaires de la cour, il va résider de moins en moins souvent. Mais ça va être aussi pour lui une initiation à l'administration, une initiation sur le terrain. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préoccuper, là aussi, de prendre sa plume et de rédiger un catéchisme pour son clergé et ses fidèles.
Ouais, ouais, ouais. Oui, vous dites que le ministère de la parole n'est absolument
exactement
pas un vain mot.
Pas du tout. Ouais, ouais. Alors, on a d'ailleurs, il nous reste deux sermons de Richelieu qui sont assez intéressants à décrypter, parce qu'alors, il participe de toute cette rhétorique fleurie de l'époque, mais on voit déjà chez l'évêque le départ entre le chrétien et le politique. On a toujours ces deux aspects qui coexistent.
Alors justement, mettons-nous, plaçons-nous à la frontière du politique. Il participe aux états généraux, voilà. Car il y a des états généraux, et il est en quelque sorte le porte-parole
de son ordre. Du clergé, qui était le premier ordre du royaume.
Voilà. Est-ce qu'on décèle déjà un programme politique à cette époque?
Alors,
chez lui,
deux choses. Premièrement, c'est quand même un très jeune évêque, et il est élu dans la mouvance d'une des gloires de l'Église de France, qui était le cardinal Duperron. Et pendant toute la tenue des états généraux, on le voit très peu, Richelieu. On le voit juste à la tête d'une délégation, mais très très peu. C'est juste à la séance de clôture qu'il va être choisi pour porter la parole devant le roi, ou plutôt devant la reine-mère, pour son... Alors pourquoi l'a-t-on choisi ? Je pense que là encore, c'est pas justement parce qu'il avait été particulièrement brillant, mais c'est au contraire parce qu'il était pas marqué politiquement et que c'était effectivement un orateur brillant. Alors il va faire une harangue, là encore, dans un brouhaha indescriptible. Il faut se remettre dans l'esprit. On n'avait pas de micro comme nous en avons aujourd'hui. Tout ça est à remettre en situation, mais il en a... Cette harangue, elle a été très appréciée, il l'a même fait imprimer. Et alors là, effectivement, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire, c'est qu'il avait un programme politique dès cette époque et qu'on a des thématiques qu'on va retrouver quasiment dans les mêmes termes tout au long de sa carrière. Mmh. Il y a des phrases de cette harangue qui se retrouvent dans les années 1640, dans son testament politique, mais dans les mêmes mots. Et quelque chose qui est amusant, c'est notamment sur la nécessité d'employer des ecclésiastiques en politique. On a déjà un paragraphe qui s'adressait directement à Marie de Médicis et qu'on va retrouver dans les recommandations qu'à la fin de sa vie, il fera à Louis XIII.
Vous faites ce parallélisme étonnant. Hein. Je renvoie nos auditeurs à ce parallélisme. Les trois thèmes développés et que l'on retrouve tout au long de sa vie, Dieu, l'État et le conseiller du roi.
Exactement, c'est les trois points d'ancrage forts qui vont être ces deux pôles de sa politique, Dieu et l'État, et puis le conseiller qui est au service des deux, c'est le cardinal ministre, encore une fois.
Alors faisons un saut dans le temps, nous sommes à La Rochelle, en 1627-1628, alors nous connaissons tous le tableau d'Henri Motte, Richelieu sur la digue de La Rochelle, qui est un tableau qui date de 1881, c'est un moment crucial du ministère de Richelieu.
C'est un moment, toute l'Europe était attentive, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le roi de France avait entrepris cette fois de terminer les guerres de religion en réduisant la citadelle de La Rochelle. Et toute l'Europe était suspendue à cette affaire puisque d'un autre côté, il y avait le soutien des puissances protestantes et puis donc l'Angleterre. Et on sait que l'Angleterre n'est jamais arrivée à destination. Et puis, il y avait également l'Espagne qui apportait son soutien à la France, mais qui était aussi très discrète. Donc, on avait un point d'ancrage où le roi de France catholique et les protestants étaient face à face. Et le roi de France a été jusqu'au bout.
Alors, que se passe-t-il politiquement ? Richelieu est soutenu au départ par les dévots. Quelle est la position de Richelieu par rapport...
Richelieu est arrivé au pouvoir par la reine-mère, qui est elle-même une tenante de la politique pro-espagnole des dévots, puisque l'enjeu est donc de savoir si la réforme catholique va triompher en France et si on va avoir une Europe christianisée sous l'impulsion de Rome et surtout de son bras séculier qui est l'Espagne. Alors, Richelieu est arrivé au pouvoir par la reine-mère. Et... rapidement, il a regardé vers la politique étrangère et il a commencé à aller chatouiller l'Espagne en Italie. Et puis, on ne peut pas avoir deux fers au feu, il s'est aperçu qu'il fallait avant régler le problème de politique intérieure posé par les protestants et le liquider. Et donc, il a rapatrié, j'allais dire, toutes les armées. Et on est allé au siège de La Rochelle, qui a duré le temps que l'on sait. Et puis, il y a eu réduction de la ville de La Rochelle. Les dévots sont les plus heureux des gens. Enfin, le catholicisme triomphe en France. Et le moment où le roi et Richelieu pénètrent en vainqueur dans La Rochelle, c'est sans doute le moment où Richelieu a été le plus populaire. Sa popularité est absolument à son comble. Les dévots triomphent. Et puis, que fait Richelieu immédiatement, et même dès avant la chute de la ville, il propose un célèbre avis au roi dans lequel il lui dit « maintenant, il faut repartir à l'extérieur. »
Vers l'Espagne.
Contre l'Espagne.
Contre l'Espagne, oui. Contre l'Espagne. Un point que nous allons développer, si vous le voulez bien, Françoise Hildesheimer, après cette pause.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Françoise Hildesheimer, auteur de la biographie de Richelieu, parue chez Flammarion en 2004, un ouvrage qui a reçu le prix, un des grands prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors nous évoquons le Richelieu religieux, notamment ce siège de La Rochelle. C'est un moment crucial, nous l'avons dit, de sa vie. Pendant le siège, il y a notamment un point très important, c'est le lien qui unit Louis XIII et Richelieu. Et à un moment de ce siège, Louis XIII est obligé de revenir sur Paris. Louis XIII est obligé de revenir sur Paris, et voilà Richelieu seul, et finalement quasiment isolé.
Alors, le problème de Richelieu, c'est donc qu'il est arrivé au pouvoir par Marie de Médicis, et que entre le roi et sa mère, c'est pas un amour extraordinaire. Donc, Richelieu va devoir passer du statut de créature, comme on disait à l'époque, de la reine-mère, à celui de créature du roi, et s'imposer non seulement politiquement, mais, si je puis dire, dans le cœur du roi. Et c'est ça qui va être le point le plus difficile de tout son ministériat. Alors, effectivement, au moment du siège de La Rochelle, il y a un épisode intéressant. Le roi s'ennuie. Le roi déprime, le siège s'enlise. Alors, il a lui-même été travailler aux fortifications, ça l'a occupé un certain temps, et puis, bon, il n'a plus rien à faire. Et il a très envie de retourner chasser dans ses forêts d'Île-de-France. Alors, le cardinal est très mal, parce que qu'est-ce qu'il fait s'il est séparé de la personne du roi? Bien sûr que d'autres gens vont pouvoir prendre un ascendant sur le roi, et lui, il va être à son tour enlisé dans les marécages autour de La Rochelle. Mais il n'y a rien à faire, le roi veut partir, et donc il laisse même le commandement des troupes à Richelieu, ce qui est quand même un signe de confiance, et il s'engage à revenir quelques mois plus tard.
Alors, il y a une déclaration passionnée.
Et alors, effectivement, on a... Le vocabulaire est assez étonnant, parce qu'effectivement, le roi écrit, ils s'écrivent. Et c'est un vocabulaire de plus que de l'amitié, c'est de l'amour dont on use. Je ne sais pas si vous avez le texte là, mais c'est vraiment le vocabulaire de la passion dont ils font preuve. Et on sent qu'immédiatement, effectivement... Le roi, privé de Richelieu, se sent plus très à l'aise politiquement. Mais enfin, il part, Richelieu lui écrit et lui rend compte d'ailleurs très fidèlement dans le menu de tout ce qui se passe. Il a également des espions auprès du roi qui le renseignent sur tout ce qui se passe. Et, soulagement, le roi va tenir son engagement et revenir au moment fixé. Ce qui prouve, j'allais dire, à la face de la cour et à la face de l'Europe, que désormais le cardinal est bien le principal ministre dans lequel le roi a confiance.
Alors je cite cette lettre de Louis XIII. « Je n'ai su vous rien dire en vous disant adieu à cause du déplaisir que j'ai eu de vous quitter. Vous pouvez vous assurer toujours de mon affection et croire que je vous tiendrai ce que je vous ai promis jusqu'à la mort. Il me semble... » quand je songe que vous n'êtes plus avec moi, que je suis perdu.
Tout à fait, voilà. C'est assez éloquent.
Voilà. Alors, ce lien très fort qui est exprimé dans cette lettre et ce soutien du roi à la politique de Richelieu, il le réitère à un moment très important, justement, de présentation. Richelieu revient sur Paris et il fait avant le départ de Louis XIII vers l'Italie, Richelieu présente au roi et à la reine mère sa politique, qui est une politique tournée contre l'Espagne. Ce qui est un retournement de situation.
Totalement. Alors maintenant, il propose au roi, il se démasque carrément. Et c'est là que plus rien ne va aller avec la reine mère. Il propose au roi, en clair, de devenir le premier souverain de l'Europe, alors que jusque-là, la primauté revenait à l'Espagne. Or, Louis XIII avait certainement l'ambition d'être un roi glorieux et avait cherché jusque-là les moyens d'y parvenir, et personne, dans ses favoris précédents, ne lui avait donné satisfaction de ce point de vue-là. Or, voilà qu'on lui propose un programme qui va totalement à l'encontre de ce qui avait été pratiqué par sa mère et de ce que prêchaient les dévots. À partir de là, les deux camps, Richelieu d'un côté, qui va être renié violemment par les dévots, et d'autant plus renié qu'il avait apparu pouvoir être le premier d'entre eux, et qu'il était quand même cardinal de l'Église romaine, les deux camps vont s'affronter pour conquérir la décision du roi, et tout cela va se résoudre le 11 novembre 1630 au cours de la fameuse journée des dupes.
Alors, avant de venir à cette journée, il y a un drame personnel, cette rupture avec la reine. Celle, je citais au tout début de cette émission, quand il dépose son chapeau de cardinal au pied de la reine mère, c'était un geste fort. Alors, c'était un geste à une époque où la fidélité est très très importante.
Il faut bien voir que la fidélité est une valeur maîtresse et qu'enfreindre cette fidélité, c'est quasiment une trahison. Alors, Richelieu, en passant du statut de créature de la reine-mère à celui du roi, a enfreint le devoir que son statut de créature de la reine-mère lui créait. Et ça, on le lui a reproché toute sa vie. Des pamphlétaires comme Mathieu de Morgues ne cesseront jamais de porter le couteau dans cette plaie. Et on s'aperçoit que c'était vraiment une plaie, puisque dans son testament, son véritable testament, qu'il rédige quasiment à la fin de sa vie, en 1642, le seul point sur lequel il tient à revenir en conscience, c'est justement cette affaire de la reine-mère. Il y écrit « Je ne puis que je ne dise que je n'ai jamais manqué à la reine-mère le respect auquel j'étais tenu à son endroit ». Donc on s'aperçoit que jusqu'à sa mort, ce problème l'a tenaillé. Et Richelieu était quand même, contrairement à Louis XIII, pas très porté aux scrupules. Donc il faut bien que ça ait été quelque chose de très fort.
Alors vous décrivez évidemment cette journée des dupes qui est aussi un tournant. Et on a l'impression à vous lire que Richelieu ne pensait absolument pas avoir la partie gagnée.
Pas du tout. Et d'ailleurs, Richelieu, de ce point de vue-là, et c'est là qu'on voit qu'il y avait on revient à ce qu'on disait d'un certain déséquilibre, Richelieu partait perdant. On a vu qu'au moment du siège de Corbie, tout à l'heure, on disait qu'il y avait panique dans son esprit. Là aussi, immédiatement après avoir subi l'algarade de la reine-mère, il envisage de partir pour son gouvernement du Havre. C'est perdu. Et là, il faut que ce soit un de ses amis, le cardinal de la Valette, qui lui dise « mais non, restez ». Et c'est le roi qui va le rappeler. S'il était parti selon son premier dessein, ça aurait mal tourné pour lui. Et de même qu'au moment de Corbie, c'est le fameux père Joseph qui lui remonte le moral, et on dit qu'il l'aurait même traité de poule mouillée.
Il remet souvent cette démission sur la table, finalement, Richelieu.
Il y a un espèce de chantage à la démission, effectivement.
Alors, il peut appliquer dès lors sa politique internationale, bien que le mot international soit un peu un anachronisme. Les affaires du dehors. Est-ce que c'est une politique de conquête ?
Ça, c'est très difficile à dire. Parce que au moment où il aurait pu être question de conquête, donc à partir du moment où la France reprend l'avantage, la guerre commence en 1635, elle commence très mal dans un premier temps. Ce n'est que dans les années 1640, 41, 42 que la France va prendre, grignoter peu à peu l'avantage et va effectivement être en situation de penser à des conquêtes. Mais à ce moment-là, il faut bien voir que Richelieu est de plus en plus malade, que ça va de plus en plus mal avec le roi. On est en plein dans la fameuse affaire Saint-Mars, où le roi a été quand même à deux doigts, et même à un demi-doigt, je dirais, de le lâcher. Et qui, petit à petit et sans bruit, a pris en main les affaires à côté de Richelieu et fait le lien avec le roi, c'est Mazarin. Mazarin s'est imposé, je pense que ça, on peut le dire, auprès de Louis XIII, bien avant la mort de Richelieu. Mais donc, qui à ce moment-là fait la politique étrangère? Qu'est-ce que Richelieu voulait? Il n'y a pas de sa part, formellement, de volonté de conquête. Il semble que ce soit le roi qui pousse à cela. Le roi qui, cette fois, est enfin le roi de gloire qu'il voulait être et qui est beaucoup plus va-t-en-guerre jusqu'au boutiste que Richelieu qui, lui, trouve qu'on pourrait négocier. Et c'est pas tellement une politique de conquête qui était la sienne, mais plutôt une politique de s'acquérir des places, des portes, comme on disait alors, à l'extérieur, pour pouvoir provisoirement intervenir. D'où l'importance de certaines places qui aujourd'hui nous paraissent minuscules, comme Pignerol en Italie. C'était un moyen d'avoir un ancrage qui permettait d'intervenir en tant que de besoin, mais on n'avait pas idée qu'il fallait annexer des provinces. Ça va venir après. Il semble que ce soit effectivement le roi qui soit le plus acharné en ce domaine.
Peut-on parler de recherche d'un équilibre européen?
Alors, là encore, il y a des anachronismes, on nous parle beaucoup, on aime avoir en Richelieu, effectivement, quelqu'un qui aurait même eu quasiment l'idée d'une Europe presque contemporaine. Ça, non, je crois pas. Il y a l'idée que la France doit être la première puissance, ça c'est certain. Et puis que pour cela, il y a certainement l'idée qu'il faut se ménager des alliés. Pourquoi? Eh bien parce que malgré tout, il faut voir aussi que l'Espagne était une puissance absolument formidable à côté de la France, ne serait-ce que géographiquement, ne serait-ce que du point de vue des ressources qu'elle tire de ses colonies. La France n'a pas tout cela, donc il y a la nécessité de ménager des alliés. Je pense que c'est plutôt une politique tout à fait réaliste, mais à beaucoup plus court terme.
Alors, vous évoquiez à nouveau la personnalité du roi et l'importance de la décision royale, puisque cette décision royale, en dernière analyse, intervient toujours. Et c'est Louis XIII qui décide, et ça c'est un des grands acquis de votre biographie, c'est que même par exemple pendant la journée des dupes, vous montrez très clairement que le personnage principal,
c'est le roi.
Ce n'est pas Richelieu, c'est le roi.
Je crois qu'il faut en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Louis XIII, d'abord, il a malchance d'être coincé entre deux rois plus brillants que lui, Henri IV et Louis XIV. Et puis, il nous a pas laissé la documentation que nous a laissé Richelieu. Donc les historiens ont travaillé sur les papiers, sur les écrits de Richelieu, et ont vu le roi à travers le cardinal, puis il s'est greffé là-dessus la légende romantique. Donc Louis XIII, il est sous-évalué, alors que, à mon avis, c'est un très grand roi. Et de toute façon, dans le couple formé par le roi et le cardinal, il n'y avait pas de possibilité de discussion. De par sa naissance, le roi était forcément le seul titulaire du pouvoir. Le cardinal n'était là que par son bon plaisir.
Pourtant, dans votre conclusion, il y a bien, je vous cite, la faillite, vous dites, il s'agit de la faillite d'une relation humaine.
Alors, à la fin, effectivement, l'affaire Saint-Mars, c'est une affaire absolument lamentable. Alors là, si on reprenait les textes, on n'est plus dans le vocabulaire amoureux, mais peut-être plus dans celui du dépit amoureux. Et on voit le cardinal quasiment mendier, même plus direct, n'a plus accès au roi. Et il y a une lettre assez terrible où le cardinal revient à la charge par les secrétaires d'État pour réclamer la disgrâce d'un certain nombre de gens de l'entourage de Louis XIII. Et Louis XIII répond tout simplement « Je n'ai rien à dire à mon cousin, le cardinal de Richelieu ». Voilà où on en était.
Oui, tous les cardinaux étaient les cousins du roi.
Oui, ça c'était la titulature normale.
Voilà, voilà, mais Richelieu gardera toujours le sens de son devoir.
Et la grandeur peut-être de Louis XIII, c'est de, même au moment où il ne supportait plus Richelieu, de savoir qu'il en avait besoin pour mener cette politique de grandeur à laquelle il aspirait, mais dont il avait, et c'est aussi un des aspects de sa grandeur, conscience que lui-même n'était pas capable de voir tous les enjeux et toutes les possibilités.
Alors, nous sommes sortis un peu de l'aspect religieux. Nous allons y revenir dans un instant, si vous voulez bien, Françoise Hildesheimer. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Canal Académie et que je reçois l'historienne Françoise Hildesheimer, auteure de la biographie de Richelieu, parue aux éditions Flammarion. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission consacrée au Richelieu religieux. Je reçois Françoise Hildesheimer, auteure d'une biographie qui vient de remporter un des grands prix de l'Académie des sciences morales et politiques, une biographie parue chez Flammarion. Alors nous avons beaucoup évoqué l'histoire chronologique, nous avons évoqué la journée des dupes, le siège de La Rochelle, l'affaire Saint-Marc. Nous arrivons aux idées politiques et aux idées religieuses. Il y a un mot très important dans la vie de Richelieu, c'est la raison. Quel sens donne-t-il à la raison ? Est-ce que c'est le même sens que le sens que l'on peut donner aujourd'hui ou que l'on donnait au XVIIIe siècle ? Ou y a-t-il un autre sens dans cette œuvre magistrale ? Car encore une fois, Richelieu écrivait beaucoup.
Alors je crois que là, vous avez mis le doigt sur le point le plus central. On nous a présenté coutumièrement Richelieu comme le tenant impitoyable de la raison d'État. Moi, je me suis bornée à relire son testament politique. Raison d'État, ça n'apparaît que deux fois et de manière entièrement négative. Et c'est vrai qu'il y avait toute une tradition de condamnation de la raison d'État. Et la raison d'État, effectivement, sous la plume de Richelieu, c'est ce qui cautionne des pratiques mauvaises que l'on doit proroger parce que on ne peut pas les éradiquer. L'exemple le plus frappant, c'est la vénalité des offices. C'est une pratique mauvaise, mais on n'a pas l'argent pour rembourser. Donc, la raison d'État veut que l'on continue. C'est quand même pas très positif. En revanche, il y a quelque chose, alors là, qui est omniprésent sous sa plume, que ce soit le politique ou le théologien, c'est la raison. Et sa raison, quand on regarde de près, elle vient directement de saint Thomas. Et il a eu des études de théologien thomiste classique. C'est pas encore la raison de Descartes, même si sur certains points, Richelieu nous fait beaucoup penser à la méthode cartésienne dans sa manière d'exposition, en serriant les problèmes, les décomposant. On pense beaucoup à Descartes, mais sa raison, elle n'est pas cartésienne. C'est une pure raison thomiste et elle est à l'origine de toute sa réflexion et de aussi de toute sa tradition de gouvernement. Et alors, il y a deux choses. Dans le testament politique, on nous dit deux choses. Les deux chapitres centraux, c'est que le but du gouvernement des États, c'est l'établissement du règne de Dieu. Donc ça, c'est le Richelieu chrétien. Chapitre suivant, le moyen du gouvernement, c'est de faire régner la raison. Donc on voit très bien comment la raison humaine opère sous le regard de Dieu. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est intéressant, c'est qu'il est un des premiers, c'est ça, au fond, qui l'oppose fondamentalement aux dévots. Pour les dévots de son temps, la politique, elle est sous domination du religieux, de la théologie. Richelieu, en dégageant cette raison purement humaine, va l'appliquer à la pratique de la politique et va soustraire la politique du théologique, va dire il y a un domaine purement humain où s'exerce une politique raisonnable, mais le tout restant au niveau supérieur dans une optique d'établissement du règne de Dieu.
Mais n'est-il pas le créateur de l'État moderne ?
Tout à fait. Et alors à partir de là, ça permet effectivement de dégager une idée d'État beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus conceptualisée, qui va être quelque chose à laquelle Louis XIII, lui aussi, va adhérer. Et c'est assez amusant de voir dans les textes, par exemple, les ordonnances royales, on part d'une vision, c'est mes états. Et puis, petit à petit, ça va être mon état. Mmh. On a quelque chose qui devient un concept supérieur à la personne même du roi, et qui est effectivement cet état moderne qui... Alors, revenons à la raison d'État, effectivement, qui va s'imposer aussi parce que l'État va être doté de sa propre raison et qui va exiger des conduites politiques propres.
Mais ce n'est pas la raison d'État de Machiavel.
Exactement. Et alors, cette raison, Richelieu va l'appliquer aussi à quelque chose qui lui est cher, c'est la conversion des protestants.
Oui, alors, après la journée des dupes, nous avons présenté le retournement du programme politique de Richelieu. Il reste malgré tout un homme de son ordre, il adhère au renouveau du catholicisme tel que l'a défini le Concile de Trente.
Tout à fait, il n'a jamais cessé d'être un prélat et reconnu comme tel par ses pairs. Par exemple, vous savez que le clergé de France avait un système d'assemblée pour régler les problèmes fiscaux et tous les problèmes qui pouvaient se poser religieux. Richelieu contrôle ça avec beaucoup d'intérêt, participe au débat, il est pleinement prélat et il n'y a aucune affaire de relation avec Rome qui lui est étrangère. Il a une vision assez intéressante. Et puis, celui qui, au scandale en politique étrangère et pour faire pièce à l'Espagne, s'était allié avec des puissances protestantes, mais on avait déjà le précédent de Henri IV. Mais à l'intérieur, eh bien, jusqu'à sa mort, il va travailler et faire travailler à la rédaction de ce fameux traité pour convertir les protestants.
Vous parlez longuement.
Même à se demander si c'était pas ça son grand dessein, si ce lui aurait semblé le plus glorieux, ça n'aurait pas été d'arriver à ramener par la seule puissance de la controverse, de la seule magie du verbe, les protestants à reconnaître que l'Église catholique était seule reine et maîtresse en la matière.
Je cite une de ses prières qui m'a beaucoup marqué lors de la lecture. « Mon Dieu, je souffre beaucoup, mais je ne demande point que vous diminuez mes douleurs, car j'en mérite beaucoup davantage. Je vous demande seulement, mon Dieu, la patience pour les supporter, mais sur toute chose, je vous demande votre paradis. Vous ne le refuserez point, mon Dieu, à ceux qui vous le demandent comme moi. Vous connaissez le fond de mon âme. » Il y a ce qui est d'étonnant, c'est qu'il y a cette conscience de son action. Il ne la rejette pas. Bref, il concilie, et c'est les derniers mots de votre livre. Il ne met pas en contradiction la foi et l'État.
Exactement, mais c'était également dans la tradition de son temps. On a alors là, il est en accord avec aussi certains dévots qui estiment qu'il faut, pour faire triompher leurs idées, elle est au charbon, on dirait aujourd'hui, et que on voit des, même si une vie contemplative est peut-être souhaitable, il n'est pas interdit de participer aux affaires du temps. Là, il est tout à fait l'homme de son époque, et cette prière, on pourrait très bien l'imaginer aussi dans la bouche d'un saint François de Sales.
Eh bien, Françoise Hildesheimer, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'une biographie de Richelieu aux éditions Flammarion. Nous nous retrouvons dans un instant pour les 5 minutes de Clio. À tout de suite.
Écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Françoise Hildesheimer, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ?
Alors, le livre d'histoire de jeunesse, c'est celui que mon père me lisait quand il rentrait du travail. C'était l'histoire de France de Guizot.
Quel est le fait historique dans votre jeunesse ayant participé à l'élaboration de votre identité et, ou bien de votre personnalité ?
Alors là, question difficile. Et je vous répondrai que c'est peut-être pas un fait historique, mais c'est quelque chose qui se dégage d'une lecture de l'histoire. C'est l'idée assez peu consolante que les leçons de l'histoire n'existent pas.
Quel livre d'histoire est sur votre table de chevet aujourd'hui ?
Alors, c'est un livre que je n'ai jamais abandonné et qui m'a sûrement beaucoup marqué. C'est le Rabelais de Lucien Febvre.
Quel est le fait historique, philosophique, politique ou la question historique, philosophique, politique vous ayant donné le plus de difficultés dans vos recherches ou dans vos réflexions ?
On revient là à ce qu'on vient de dire, c'est d'essayer de comprendre comment la vision de la raison de Descartes a fait basculer la pensée occidentale.
Alors nous abandonnons, Françoise Hildesheimer, votre histoire pour nous tourner vers notre histoire. Quel est votre héros dans l'histoire antique ou dans les mythologies ?
Difficile à dire, mais je dirais que j'ai une certaine sympathie pour Prométhée.
Si vous deviez choisir entre Athènes et Rome ?
Athènes, sans hésiter.
Quelle est la plus belle image du monde médiéval ? En architecture, en sculpture, en peinture ?
Ah non, c'est sûrement Saint-Louis sous son chêne à Vincennes.
Nous la retiendrons. Quelle est dans l'histoire moderne, pardon, ou contemporaine, quel est le roi ou le chef d'État pour lequel vous avez une préférence ? J'avais envie de dire en dehors de Richelieu.
Eh bien alors, vous avez peut-être compris que c'est Louis XIII.
Quel est le plus grand fait d'armes de l'histoire de France ?
J'aime pas beaucoup les faits d'armes, alors on songera à Rocroi qui termine si glorieusement le règne.
Alors, votre et notre patrimoine, Françoise Hildesheimer, quel est le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ?
Alors, c'est certainement la façade et la colonnade de l'hôtel de Soubise, puisque j'y passe depuis un quart de siècle tous les jours et que je n'ai jamais pu m'interdire de me dire comme c'est beau.
Vous ne vous en lassez pas. Quelle est votre 8e merveille du monde ?
Alors, je vous répondrai, c'est sûrement la nature, mais là-dedans, je vais découper un petit tableau qui est le seul paysage de Rembrandt, qui est à une vue d'un pont avec un rayon de soleil, qui est une chose merveilleuse.
Quel voyage culturel referiez-vous volontiers ?
Venise, tous les jours.
Allons faire ailleurs, si vous le voulez bien, Françoise Hildesheimer, vous devez vous exiler. Quels sont les deux livres que vous emportez avec vous ?
La recherche du temps perdu et Les liaisons dangereuses. Ça fait plusieurs livres.
Enfin, vous arriviez dans l'au-delà. Quel personnage de notre histoire iriez-vous voir immédiatement et quelles questions lui poseriez-vous ?
À votre avis, j'irai voir un certain cardinal et je lui demanderai s'il ne m'en veut pas trop d'avoir essayé de le ressusciter.
Françoise Hildesheimer, merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de la biographie de Richelieu, parue aux éditions Flammarion, un livre qui vient de remporter un grand prix de l'Académie des sciences morales et politiques 2005. Merci et à très bientôt.